Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, en 1926, Marseille, vue par le grand reporter Albert Londres.
J'ai ouï dire que le problème de la circulation empêchait souvent de dormir monsieur le préfet de police de Paris. C'est un souci qui n'empêche pas les autorités marseillaises de ronfler, en revanche. Elles ont peut-être raison. Pour la ville, c'est une curiosité. Cela doit attirer des visiteurs. On peut, en effet, se déranger pour voir une chose pareille. Ni droite, ni gauche. Permission d'enjamber les refuges, d'entamer les trottoirs. La circulation à Marseille est régie par une loi unique. Toute voiture doit, par tous les moyens, dépasser la voiture qui la précède.
Albert Londres, 1926.
Quand il s'arrête à Marseille en 1926, Albert Londres est déjà un reporter chevronné. Ses longs reportages publiés dans les plus grands journaux parisiens suscitent l'intérêt du public, le malaise des autorités. En 1923, trois ans plus tôt, il a signé son reportage le plus célèbre, celui qui s'intéresse au bagne de Cayenne, en Guyane. Le texte fourni est une dénonciation sans équivoque des conditions de vie inhumaines réservées aux forçats par l'administration pénitentiaire. À la publication, le scandale est immense et le gouvernement décide assez vite de fermer ce bagne de honte. Aujourd'hui, le plus prestigieux prix de journalisme d'enquête s'appelle le prix Albert Londres. En 1926, à Marseille, le reporter ne fait pas de révélations fracassantes, mais il raconte une ville déjà bordélique et cosmopolite. Une ville heureuse où, dit-il, passent beaucoup de malheureux, où Vietnamiens, Africains et Arméniens s'entassent dans des bidonvilles délabrés. Une ville peuplée de marins qui se nourrit d'un port à l'activité monumentale. Depuis 90 ans, bien des choses ont changé, mais le Marseille que décrit Albert Londres ressemble tout de même beaucoup au Marseille d'aujourd'hui. Les émigrants syriens sont déjà là, même si à l'époque ils sont en partance pour le Brésil. De même, le tram qui mène à la Joliette est lui aussi déjà là, mais il est alors rempli des bleus de travail des dockers qui se rendent au travail au port. Entre permanence et évolution, nous vous proposons aujourd'hui de vous plonger dans une description du Marseille d'il y a près d'un siècle. C'est une adaptation radiophonique d'un reportage d'Albert Londres qui s'appelle Marseille, porte du Sud, et ça va commencer.
C'est un port, l'un des plus beaux du bord des eaux. Il est illustre sur tous les parallèles. À tout instant du jour et de la nuit, des bateaux labourent pour lui au plus loin des mers. Il est l'un des grands seigneurs du large. Phare français, il balaye de sa lumière les cinq parties de la terre. Il s'appelle le port de Marseille.
Écoutez, c'est moi, le port de Marseille qui vous parle. Voyez mes bateaux qui s'en vont. Montez, montez, je vous emmènerai de race en race, vous verrez tous les Orients. Je vous montrerai les hommes de différentes peaux, le brun, le noir, le jaune, nus en Afrique, en chemise aux Indes, en robe en Chine, et marchant sur des petits bancs au pays du soleil levant. Je vous ferai connaître toutes les femmes, celles dont le voile prend au-dessous des yeux, celles au voile blanc, celles au voile noir, sarcelles au bambou coupant leur front. En kimono, en pagne, drapé ou culotté. Je vous ferai voir des oiseaux qui plongent et des poissons qui volent. Embarque-toi, embarque-toi.
Passer.
Le mot convient à la ville. On va à Lyon, on va à Nice, on passe à Marseille. Les Marseillais l'entendent ainsi. S'ils vous rencontrent une première fois et qu'ils vous supposent débarquer du matin, ils ne vous disent rien. On est en règle avec Marseille. Vous avez même droit à 2 ou 3 jours de villégiature. À la rigueur, une semaine entière ne fera pas scandale. Au-delà de ce temps, vous comblez la mesure et manquez de tact.
Et quoi, vous êtes toujours au même hôtel ?
Bah oui.
Ah, l'hôtelier doit pas être content, hein.
Mais je crache pas sur les tapis.
Ah, je dis pas ça, je dis juste vous empêcher le roulement, c'est tout.
Il y a les sédentaires de Marseille, et puis le flot des nomades qui va de la gare au port ou du port à la gare. Si vous ne faites partie ni des sédentaires ni du flot, vous n'êtes plus rien. Vous êtes le badaud, vous gênez la circulation, on vous bouscule, et le garçon du restaurant finit par ne plus faire attention à votre commande.
Les Italiens.
Un jour, pour calmer mon esprit en proie au doute, j'ai dû acheter un livre de géographie et contrôler de mes yeux que Marseille était bien dans un département qui s'appelait les Bouches-du-Rhône. C'était le cas, mais les Bouches-du-Rhône devaient être en Italie. Comme nous étions au matin, je sonnai la femme de chambre. Elle arriva. C'était une Italienne. Alors, lui dis-je, envoyez-moi le valet. C'était un Italien. Faites monter le sommelier. Il était italien. J'empoignai mon chapeau, ma canne, mon pardessus. En sortant de l'hôtel, je m'adressai au portier et j'eus comme un espoir. Le portier, lui, était anglais. Me voici rue Noailles. Je vois passer une charmante promeneuse. Je lui dis bonjour. Elle me répond « Arrivederci !» Ce qui veut dire « Au revoir » à Rome. Après, je flâne dans les rues. Des affiches électorales décorent les murs. Ils sont 4 candidats, je ne sais pas à quoi. Ces 4 noms se terminent en I ou en O. Quelque chose comme Modigliani, D'Annunzio, Mussolini ou Pirandello. Passons. C'est dimanche. Je rentre dans une église. Il n'y a pas de chaise. Les chrétiens sont debout. Comme en Italie. Ce ne serait rien, mais le prêtre monte en chaire et que fait-il ? Il prêche en italien. Je file vers le marché. Justement, comme je passais sous l'arche de l'hôtel de ville, monsieur le maire de Marseille sortait de la maison. La rencontre de cet homme éminent fut un éclair dans mon brouillard. J'allais enfin savoir si ce matin j'entendais clair et si, réellement, les curés de Marseille prêchaient en italien.
Monsieur le maire, je crois être perdu, mais puisque vous voici, vous ne me refuserez pas une précision. De quelle ville, au fait, êtes-vous maire ?
Écoutez autour de vous.
Je n'entends que la langue italienne.
Eh bien, maintenant, vous êtes fixé.
Cela ne me dit pas de quelle ville vous êtes le premier magistrat.
Allons, votre esprit est encore lourd ce matin. Vous voyez bien que je suis le maire de Naples.
La Casbah.
On a fait, voilà 2 ans, une exposition coloniale à Marseille. C'est à se demander jusqu'où, parfois, les pouvoirs publics vont dans l'inutilité. Voulez-vous voir l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ? Donnez-moi le bras. je vous conduis rue des Chapeliers. Voilà le parfum de l'Orient, c'est-à-dire l'odeur d'une vieille chandelle en train de frire dans une poêle. Voilà les sidirs rentrant à la Casbah après le travail au port. Cédez le trottoir et ne parlez pas aux femmes, cela ferait une bagarre. Vous êtes en territoire arabe.
Les journaux.
Maintenant, il est 10h du soir. Le train de Paris vient d'apporter les journaux. Nous les attendons au kiosque, place de la Bourse. Cela fait 2 gros tas d'un mètre chacun. Vous préparez votre monnaie et vous allongez le bras. Le vendeur coupe les ficelles. D'une main habile, il enlève un premier paquet. Ce sont des journaux russes. Au second paquet, ce sont tous les dailies d'Angleterre. 20 mains se tendent. Il sert les clients. Après, c'est le tour des journaux tchécoslovaques. Il les vend. Viennent ensuite les journaux hollandais, puis les allemands, puis les hongrois. On les achète. Voilà les journaux hébraïques. Alors, d'une voix timide, on alpague le vendeur.
Est-ce que je pourrais avoir les journaux français ?
Après, petit impatient, après.
Aux quatre coins du monde, indiscutablement, on aime sa faconde et ses 1000 défauts charmants. Elle a la grâce brune des filles du midi. Il n'en existe qu'une, voilà pourquoi chez nous l'on dit. On connaît dans chaque hémisphère notre canne-canne-canne-canne-pierre. Et partout, elle est populaire. Notre canne-canne-canne-canne-bière est parue vieux port et sans effort. Coquette de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre. Notre canne-canne-canne-canne-bière. Comment vous la décrire, son charme est sans pareil. Joyeuse, elle s'étire comme un lézard au soleil. Internationale, pour l'amour trondelaire, elle est la capitale des marins de l'univers. On connaît dans chaque hémisphère notre canne, 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 bière. Et partout, elle est populaire, notre canne, 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 bière.
La canne-bière ne donne rien en photographie. On la met sur carte postale, c'est entendu. Et puis après, cela n'a jamais rien appris à personne de voir la canne-bière sur carte postale. C'est comme si l'on peignait une cour d'assises avec son prévenu, ses juges, ses avocats. Cela ne traduirait pas les passions que soulève un procès populaire. Les gens de la canne-bière ne ressemblent pas aux promeneurs et aux buveurs des avenues, cours et boulevards des autres chères villes de la chère vieille petite France. La canne-bière est le foyer des migrateurs. C'est le rendez-vous de tous les Français qui sont connus ailleurs qu'en France. Si vous avez un compte à régler avec un mauvais Européen qui, sur un point quelconque des grands océans, vous a vendu des poissons chinois qui sont crevés en route, achetez un gourdin. Venez vous asseoir sur la canne-bière et attendez. Le misérable passera sûrement un jour. Ils y passent tous. C'est à croire que les voyageurs ont une religion secrète et que la canne-bière est quelque chose dans la religion des voyageurs, comme la Mecque dans la religion des musulmans.
Il est né le divin enfant, il est né sur la canne-bière, il est né le divin enfant, il est né près du Mont Saint-Jean.
Import, export.
Port de Marseille, carreau des halles des terres lointaines. Quelle entreprise d'emménagement et de déménagement. C'est une foire aux puces, mais universelle et géante.
Combien de cartons encore ? Combien ?
Riz, café, tabac, caoutchouc, tonneaux de vin, tonneaux de rhum. Voici du blé qui arrive droit du centre de la France. On l'expédie à Alexandrie d'Égypte. Mais regardez celui-là qui vient de Roumanie. Il descend des bateaux, on l'entasse. Il doit être pour le centre de la France. Et on dit ensuite que le pain est cher. Pour ceux qui connaissent le prix des voyages, le pain n'y est pour rien. Qui expliquera jamais les mystères de la vie économique des nations ?
La guerre de l'opium.
Il y eut, jadis, en Chine, la guerre de l'opium. Elle se livra à coups de fusils et de canons. Un traité la termina. Du moins, l'histoire parle ainsi. L'histoire se trompe. La guerre de l'opium n'a pas cessé. Elle continue sur le champ de bataille de Marseille. Alors, un jour, je revêtis mon vieil uniforme de correspondant de guerre et je me rendis au grand quartier général des opérations. Il était place de la Joliette et s'appelait commissariat du port.
Monsieur le commissaire, ainsi que vous pouvez le voir à mon uniforme, je suis correspondant de guerre.
Vous allez en Syrie ?
Non, je reste à Marseille. Je viens suivre la guerre de l'opium.
Eh bien, vous n'avez pas peur ?
Je n'ai pas peur. De plus, vous pouvez avoir confiance en moi. Je fus accrédité, en d'autres circonstances, au grand quartier français, anglais, italien et russe.
Ce sont des références. Asseyez-vous. Marseille est en effet le front de la grande guerre internationale de l'opium. Seulement, tous vos états de service, auxquels je veux bien croire, ne vous ont nullement préparé au rôle que vous prétendez jouer. Les guerres dont vous parlez ont eu lieu à visage découvert. On savait plus ou moins où trouver l'ennemi. La guerre de l'opium est une guerre de francs-tireurs et d'hommes masqués. Allez donc accrocher votre uniforme à son clou. Et si vous avez le téléphone, donnez-moi le numéro. Je vous ferai prévenir pour la prochaine escarmouche.
À 5 jours de là, je reçus l'appel. J'accourus. Le long du bâtiment des docks, un paquebot de la ligne de Chine terminait sa manœuvre d'accostage. Au bout de 3h15, un marin descendit du paquebot. Il allait prendre son train afin d'embrasser sa famille au plus tôt. Il emportait même sous son bras 2 grosses boules de pain pour faire à ses petits-enfants de bonnes tartines dans du pain de mer. Le commissaire aborda le marin.
Police, monsieur, si vous voulez bien nous suivre.
Les 2 boules de pain étaient remplies d'opium. Je vis d'autres coups. Les cannes creuses, les faux livres. On se souvient encore d'une époque récente où chaque courrier apportait un paralytique. Et les douaniers eux-mêmes s'écartaient pour laisser passer l'opium dans les béquilles.
Le maquis.
Le maquis nourrit le troupeau, abrite le gibier et, parfois, les bandits. Tous les grands ports ont leur maquis. Le maquis de Marseille est sans pareil. Il est installé en plein quartier d'honneur. La Canebière est son boulevard. Et il la flanque sans vergogne à droite et à gauche. Ses repères sont des bars. Il y a presque autant de bars que de maisons. Les maisons qui n'ont pas encore de bar en auront. C'est la dictature du zinc. On y fait de tout. Préparation au vol. Recel. Faux passeport. Faux papier. Traite des blanches. Transformation des bijoux. Écoulement de fausses monnaies. Maquillage de pièces d'identité. Vente d'instruments de travail. Couteaux, revolvers, poings américains, perruques. On y tient aussi bureau de renseignement et d'embauchage. C'est ici que l'on se retrouve pour former équipe et partir travailler ailleurs. Au Caire, à Alger ou en Amérique du Sud. Le quartier a même une caisse internationale d'encouragement au crime. Il y fonctionne également un tribunal. Les procès sont à huis clos et les exécutions à l'air libre. Il y a une espèce d'école du soir pour malfaiteurs scientifiques. Briser les glaces, faire sauter les serrures, ouvrir ou percer un coffre-fort, cela s'apprend. Lire un plan d'appartement, de paquebot, couper le téléphone, marcher sans bruit, se méfier des chiens, se maquiller, ne pas se vanter, se ménager l'alibi. Le programme est chargé.
Les filles.
À la rigueur, un port pourrait peut-être se passer de bateau, mais je ne le vois pas du tout sans piano mécanique. Ils sont derrière la mairie. C'est là où tous les hommes de l'intérieur des navires viennent entendre de la musique. Marins, chauffeurs, soutiers, mazoutiers, hommes de ponts ou de cales, marmitons, des blancs, des noirs, des teintés, des jaunes, tel est notre peuple. Et c'est là que ce peuple des mers vient se remonter le cœur. Il se promène lentement dans l'immense boîte à musique. Il passe, il repasse, il s'assoit, il boit, il pense, il regarde, il choisit, il s'offre la femme qui lui plaît. Il se délasse du bateau, des longues traversées, de la vie entre hommes. Un peu de musique, un peu de lumière, un peu d'alcool, un peu de chair. Ce n'est que l'appoint d'un maigre salaire. Les pauvres de la mer errent dans ce cloaque. Ils boivent, chantent, succombent avec innocence. Demain, ils seront en mer et paieront par une longue retraite l'excès naïf de cet unique soir.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Y a tout ça en raccourci, des grands amours dans nos petits. On a ri, on s'est baisé sur les neneuils, les nénés, dans les cheveux à plein béco, pondus comme des œufs tout chauds. Tout ce qu'on fait dans un seul jour, et comme on allonge le temps, plus de trois fois dans un seul jour, content, pas content, content. Y a dans la chambre une odeur d'amour tendre et de goudron. Ça vous met la joie au cœur, la peine aussi et c'est bon. On n'est pas là pour causer, mais on pense même dans l'amour. On pense que demain il fera jour et que c'est une calamité. C'est là le sort de la marine et de toutes nos petites chéries. On accoste, mais on devine que ça sera pas le paradis. On aura beau se dépêcher, faire bon Dieu la pige au temps, et le bourrer de tous nos péchés, ça ne sera pas ça. Et pourtant, toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours, on les trouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour.
Le phare.
La France a une vue magnifique sur tout le reste du monde. Mais nous regardons pousser nos betteraves. Sommes-nous donc une nation enfermée dans ces montagnes? Allez à Marseille, Marseille vous répondra. Cette ville est une leçon. L'indifférence coupable des contemporains ne la désarme pas. Attentive, elle écoute la voix du vaste monde et, forte de son expérience, elle engage, en notre nom, la conversation avec la terre entière. Il est un phare à 2000 de la côte. Tous les soirs, on le voit qui balaye de sa lumière et le large et la rive. Ce phare est illustre dans le monde. Il s'appelle le Planier. Quelle que soit l'heure où vous le regardiez, dites-vous qu'à cet instant, on parle de lui sur toutes les mers et sous toutes les constellations. Quand on n'en parle pas, on y pense. Mais si le Planier ramène au pays, il préside aussi au départ. Faites le voyage de Marseille, jeunes gens de France. Vous irez voir le phare. Il vous montrera un grand chemin que, sans doute, vous ne soupçonnez pas. Et peut-être alors, comprendrez-vous.
Voilà, ça vient pas de nulle part, c'est fini pour cette fois-ci. Sachez tout de même encore que l'adaptation que vous venez d'entendre ne reprend qu'une petite partie du reportage d'Albert Londres. Sachez aussi que par souci de compréhension et d'adaptation aux mœurs contemporaines, nous avons modifié ou supprimé certains mots et certaines phrases. Le texte original et intégral est disponible sous la forme d'un petit livre qui s'appelle « Marseille, porte du Sud ». Il est aussi trouvable gratuitement sur Internet. À la technique aujourd'hui, c'était Sébastien Gély. Pour le reste, cette émission a été préparée par Claire Rivière, Marie-Noëlle Battaglia et Jonas Sonouillet qui interprétait Albert Londres. Vous avez également pu entendre les voix de Juliette Palmade, Louise Desmulliers, Cécile Mauduit, André Suffran ou Suffrin, Nicolas Rochette et l'époustouflant Didier Buroc. Merci aussi à nos deux italophones Martha et Chiara. Spécial clin d'œil enfin à Julie Simon, sans qui rien ne serait arrivé. La programmation musicale, des liens et bien d'autres informations sont sur le site de Radio Grenouille, à la page de notre émission Ça vient pas de nulle part. Bon voyage à toutes, bon voyage à tous, et à bientôt.